parlo cana.
On a essuyé les premières perquisitions, les premières saisies, les premières gardes à vue, mais on est là. La légalisation du cannabis, elle doit se faire avec nos agriculteurs. Montrons que nous savons nous auto-normer, nous nous formons. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous dire les choses. Il faut nous rejoindre dans ce combat-là, mettre un petit peu les problèmes et les égos de côté.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, loi, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors, nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Alors aujourd'hui, maintenant, je suis avec Nico Tou. Alors je vais mal le dire sûrement, mais tu vas me corriger. Hein. Todorovski.
Parfait.
Je l'ai dit bien là ? Ouais, c'est au top ça. Alors ce qui est génial, c'est que tu as une marque de vodka qui a ton nom de famille.
Exactement.
Ça, c'est cool. On va en parler. Qui est Made in France et tout. Ça va être génial. Mais surtout, tu es le CEO de Buralzen. Donc Buralzen, c'est un réseau de buralistes qui a entre 2 et 3 000, tu m'as dit, tu en as tellement en fait que tu les comptes même pas, c'est ça ?
Oh, il y en a beaucoup plus que ça, mais on a la chance d'avoir entre 2 et 3 000 buralistes qui nous suivent depuis 2017.
Énorme, donc c'est ça, tu es là depuis 2017, donc ça veut dire que tu es un ancien du marché, parce que c'est un marché tout récent, donc c'est pour ça que tu as sûrement autant de personnes qui te distribuent. Alors tu es aussi au conseil d'administration de l'UPCBD,
affirmative,
qui est juste à côté de nous. Ça, je sais que c'est important pour toi parce que tu défends la filière. Et t'es là justement pour que on fasse du bruit et qu'on puisse résister potentiellement aux différents changements de loi, etc., qui est important pour le marché. On en parlera aussi. J'en parle très rapidement, mais tu représentes aussi la marque La Piraterie.
Et oui, qui va se lancer le 21 mai à Paris.
Ok, super, qui est la marque de Booba.
Ouais.
Ça c'est cool. T'as aussi fait une infusion à la mélatonine et à la fleur de Bac. Alors ça, tu vas nous en parler aussi, parce que ça, c'est dingue. C'est justement ces petites fioles que tu as avant de faire un examen pour te déstresser et tout ça.
Ah ben, c'est ce qu'utilisent les pharmaciens pour le côté déstressant. Ça nous permet également d'utiliser le mot pour la coller avec de la fleur de chanvre naturelle de chez nous, du sud de la France.
Ça, c'est cool. Tu as aussi produit quelque chose qui s'appelle Canastop. Donc, qui est justement là pour réduire les risques quand les personnes veulent décrocher un petit peu du THC, c'est ça ?
C'est un outil de réduction des risques qui permet aux consommateurs qui le souhaitent, qui a un rythme trop soutenu, de pouvoir avoir un outil d'arrêt.
De ralentissement ou d'arrêt
total du
Super,
cannabis.
Mais ça, c'est excellent. J'ai jamais vu ça sur le marché. Donc ça, j'ai hâte que tu m'en parles et ça va être génial. Et surtout, ça, c'est ce que tu m'as dit aussi en off. C'est que tu veux vraiment soutenir la filiale française, les producteurs français. Tu es vraiment dans cette optique-là sur ton combat et c'est ce que tu veux faire.
On est sur un marché qu'on peut comparer aujourd'hui avec le vin. Et aujourd'hui, quand on prend le vin sur le marché français, c'est les producteurs qui sont mis en avant. C'est vraiment leur terre, leur savoir-faire. Et c'est ce que je trouve que nous n'avons pas dans le milieu du CBD. Et même plus loin que ça, on a oublié qu'ils étaient là. On nous a mis un cadre en 2017 qui était le fait de pas pouvoir vendre de fleurs made in France. On est resté dans ce cadre-là. Les choses ont évolué, mais pas nous.
C'est super ce que tu dis là. Je pense que ça, c'est un beau combat et c'est un beau message. Et on va y venir. Mais moi, la première chose que j'ai envie de faire, Nico, c'est que tu nous parles un peu de toi. C'est important de savoir qui on a en face, qui va parler et quelle est ton histoire justement pour donner du corps à ton message par la suite. Alors, t'es qui, Nico ?
Alors, je suis un petit gars du sud de la France. J'ai attaqué en 2013 le métier du poumon en prenant un magasin de cigarettes électroniques dans les Bouches-du-Rhône.
Alors, tu peux dire la ville ou pas?
C'est à Château-Renard.
Château-Renard, d'accord.
Qui a commencé mes affinités avec le CBD, puisque c'est en 2014 que j'importais lors d'une année qui était forte au niveau de la cigarette électronique.
Donc 2014, très tôt.
C'était en 2014, on importait déjà du CBD FX à l'époque. Wow. C'était une marque américaine.
Wow.
Ça cartonnait, on avait des retours qui étaient très probants. On a poursuivi l'expérience avec le CBD. J'ai eu malheureusement une polyarthrite rhumatoïde qui m'a permis de me rapprocher un petit peu plus de la réalité et de ce que vivaient les personnes qui étaient en souffrance. Parce que la polyarthrite rhumatoïde à 20 ans, c'est quand même rare. J'ai pu me rapprocher de personnes qui connaissaient très bien leur sujet, qui connaissaient très bien la plante, qui ne pouvaient pas exercer en France, qui exerçaient en Italie, et qui m'ont mis sur cette voie. La vie a fait que je me suis retrouvé en Suisse, j'ai rencontré les bonnes personnes, notamment Roman, deuxième concept. C'est important de le souligner parce qu'il était là au démarrage et aujourd'hui, Roman Soler. Il était important pour moi de continuer à offrir aux consommateurs des produits de réduction des risques. Et le CBD rentrait dans ce contexte de réduction des risques parce que ça venait appuyer l'arrêt du tabac, l'arrêt de la consommation de cannabis, et même plus loin, parce qu'au Canada, ils l'utilisent, la molécule, pour sevrer les cocaïnomanes ou les héroïnomanes.
D'accord. D'accord, carrément.
Donc, tout se tient avec la cigarette électronique.
Ok, je comprends. Donc, je reprends. Tu te lances très tôt 2014. Tu es sur un marché où déjà que tu as capté en early stage. On peut se dire que c'est l'early stage en 2014. Comment tu structures? Parce que ta boîte aujourd'hui, elle est énorme. Comment tu structures? Tu as des associés. Tu souffres. Donc, tu as chopé une maladie difficile et rare. Tu t'aides grâce au CBD?
Oui, aux cannabinoïdes dans leur ensemble.
Ok, aux cannabinoïdes, ok. Donc, ça veut dire que tu es convaincu du produit, tu es convaincu de son utilité. Et donc, derrière, tu dis, je vais bâtir un empire, mais je vais bâtir tout un écosystème autour de ça.
C'est un écosystème, oui. C'est surtout de bâtir quelque chose qui soit équitable.
Qui a du sens.
Qui a du sens, qui permet de s'appuyer sur des structures qui sont déjà existantes, dont le réseau des buralistes.
D'accord.
C'est en 2017 que j'ai fait une rencontre avec Eric Hermelin, qui est le responsable, le président de l'association des buralistes en colère.
D'accord.
C'est une association qui cherche à faire bouger les choses, à les faire avancer et surtout à arrêter de voir des marchés passer tels que ça a été le cas pour les vape shops.
D'accord.
La création des vape shops. Nous, quand le réseau est arrivé sur le marché, les buralistes n'y ont pas cru. Erreur, puisqu'aujourd'hui, le marché est tel qu'il est. Le but était en 2017 d'être précurseur et de ne pas passer à côté de ce marché-là et de s'appuyer sur un réseau déjà existant et crédible pour vendre un produit qui est pour moi, et ça reste très personnel, un produit débitant. Nous ne sommes pas pharmaciens, on n'a pas de conseils à donner, de posologie à donner. C'est un produit débitant, les gens le voient, le comprennent très rapidement et l'achètent.
D'accord, ok, ça c'est cool. Donc là, tu j'aime bien le côté de ne pas louper le train. Sur une deuxième fois et donc d'avoir là l'appui justement des buralistes. Donc là tu te structures comment? Donc là tu montes une offre, tu te mets avec qui, comment, quoi, comment tu organises ton business?
What the fuck. On est parti de rien, c'est-à-dire qu'on est parti avec un véhicule en Suisse, on est allé chercher une qualité qui était légale et à un tarif qui n'était pas exorbitant parce qu'à l'époque, l'offre n'était pas exceptionnelle. Il y avait peu d'acteurs sur le marché. On est revenu avec nos 8 kilos. Buralzen a été créé à l'INPI. Et on a lancé avec des buralistes qui étaient en difficulté. Il faut savoir que Buralzen est né de par ces buralistes qui sont à la frontière, qui souffrent d'une concurrence qui est totalement déloyale sur les cigarettes. Et ces buralistes-là, à l'époque, n'avaient plus d'autre choix que de tenter. Ils n'avaient plus de chance. Ils savaient qu'ils allaient fermer. Certains m'ont témoigné de ne plus avoir assez de trésorerie pour boucler les fins de mois et ça se jouait sur des sommes de 300 euros. Donc, le CBD venait donner un nouveau souffle à ces buralistes. On a essuyé les premières perquisitions, les premières saisies, les premières gardes à vue. mais on est là.
Bravo.
En 2022.
Bravo, bravo. Je vois très bien l'idée. Donc derrière, après, tu as créé une gamme à la suite de ça. Parce que, alors, je suppose que tu es arrivé avec tes kilos. Tu as dit, allez, c'est parti, les amis. Il faut qu'on se lance sur le marché. Il n'y a pas encore, c'est pas encore carré, les lois, on ne sait pas, mais c'est pas grave, il faut qu'on se lance parce que de toute façon, c'est ça où on va mourir, je parle des buralistes. Donc, c'est un appel d'air que tu leur as donné. Ça a marché. Et après, derrière, tu as défini une gamme complète. Comment tu t'es structuré?
On a très tôt voulu mettre les chanvriers en avant.
D'accord.
Donc, on a très rapidement lié un partenariat avec un chanvrier qui s'appelle Johan, qui est présent près de chez nous dans Vaucluse. C'est la ferme de Canboune, est quand même très connue historiquement sur le marché du cannabis dans l'Hexagone. Et il avait à l'époque une purple, une variété qui était violette et qui était magnifique, qui a cartonné sur le marché français parce qu'on avait un produit du terroir avec un nom qui avait un contexte très militant. Johan était déjà précurseur du cannabis très tôt, notamment comme beaucoup d'autres acteurs hein, qui étaient moins sous les feux des projecteurs. Mais 2018 nous a rattrapés, nous a saisis, nous a perquisitionnés et nous a rappelé que les fleurs françaises étaient interdites et qu'il fallait privilégier ceux des pays étrangers.
C'est dingue quand même d'entendre ça. Ça doit foutre les boules. Comment tu l'as vécu ?
C'est assez énervant. Il faut s'adapter, il faut faire avec, il faut expliquer aux chanvriers que leur heure arrivera, mais que pour le moment, il va falloir faire comme ceci, il va falloir se structurer. Ils ont créé les associations qu'il fallait. Et aujourd'hui, il faut pousser les chanvriers parce qu'on a un produit du terroir, on a une capacité de culture qui est énorme et on a la main-d'œuvre de qualité en France pour le faire. Il faut faire avancer la culture française et arrêter de privilégier les cultures extérieures qui, plus est, ne sont pas du tout écologiques non plus.
D'accord, et donc ça, c'est un combat que tu mènes avec l'UPCBD notamment ?
Avec l'UPCBD, avec la structure Buralzen, avec des élus. C'est un pan de travail qui est assez polyvalent.
Et ta vision là-dedans, tu penses que ça va se découpiller comment ça ?
Il y aura très certainement la réécriture de l'arrêté qui va arriver en juillet. À l'heure où on se parle, il faut recontextualiser que le ministère n'est pas encore en place. On n'a pas le Premier ministre
c'est vrai.
De Monsieur Macron. Donc c'est souhaitable d'attendre déjà la création de ce ministère-là, de voir s'il penchera plutôt à gauche ou plutôt à droite.
D'accord.
Et s'adapter en fonction de ceux qui l'aura élu.
C'est dingue quand même d'entendre ça parce que on est dans une industrie où on le voit autour de nous là, parce qu'on est au salon du CBD à Lyon. Il y a plein de boîtes, il y a des centaines de magasins, il y a des milliers d'emplois, des dizaines de milliers de familles, et on est encore dans l'incertitude. C'est fou.
C'est dur.
C'est fou.
Ouais, ouais, c'est dur.
Il faut être accroché quand même là, pour être dans ce marché-là.
Il faut être accroché. Il faut avoir une équipe qui soit soudée, qui comprenne les enjeux, qui soit conscient. Il faut être conscient qu'on est sur un marché qui est totalement déséquilibré, qui peut changer à partir du mois de juillet, qui peut changer au mois de décembre, qui peut prendre une tournure tout à fait catastrophique aussi. C'est pour ça que l'UPCBD attaque le décret sur le cannabis médical. Si je ne dis pas de bêtises, et j'en parlerai sous le contrôle de Charles Morel, mais c'est un recours au fond, juridiquement parlant, il faut rester dans le militantisme, il faut rester actif.
Ok, c'est excellent. On va parler un petit peu rapidement de Buralzen. Donc, il y a toute une gamme, hein, je vois, la gamme des fleurs. Tu as une gamme de résine, tu as une gamme d'huile essentielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette gamme rapidement ?
Sur cette gamme-là, sur les fleurs ou les résines, on est sur des produits qui sont, aujourd'hui, j'ai envie de dire... comme tout le monde, puisque c'est du trading, on achète une variété, on essaye de la négocier. Chacun a ses talents de négociateur ou pas. Mais je ne peux m'attarder sur ces fleurs-là, puisque c'est quelque part un peu le fond de commerce hein, aujourd'hui du CBD, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix.
Ouais.
Je mettrai plus en avant le fait qu'on a lancé sur le salon du CBD à Lyon hier la gamme 100% Made in France, qui permet aux chanvriers d'avoir leur marque accolé à une étiquette pour que les consommateurs puissent découvrir le savoir-faire français pardon, au travers de la marque Buralzen, au travers de nos buralistes, qu'il faut rappeler fait partie intégralement du paysage français, sont là depuis des décennies. Et donc cette gamme se compose donc de trois variétés pour le démarrage qui sont Canassie, c'était important de faire travailler Guillaume, qui fait du très très bon travail et qui plus est à 30 km du siège de Buralzen. Donc historiquement, il y a un démarrage, un storytelling. Il y a également Imperius, une marque qui est très active au sein des chanvriers, qui rassemble, qui fédère des chanvriers et qui permet de faire évoluer la législation à travers des formations, à travers des discussions qu'ils ont avec les autorités. C'est important. Je reviens également sur Guillaume Guilleux, qui est très actif au sein de l'AFPC, qui est très actif au sein de l'UPCBD. Puis on a le domaine bio de Pigerol qu'on ne présente plus.
Oui.
Là, on est sur une société qui est très active. Donc, le but au travers de la marque Buralzen, c'est vraiment de mettre en avant les chanvriers actifs, les chanvriers militants qui nous permettent aujourd'hui d'avancer, qui vont nous permettre demain, avec du chanvre, de pouvoir dépolluer nos sols, de repartir sur une culture saine, sur un circuit court, un produit qui revient à une écologie et une consommation plutôt sensée. Quand j'entends des cargaisons qui arrivent du Paraguay ou d'Afrique du Sud, aujourd'hui, on a tout dans nos contrées.
Non, mais t'as raison. Ce qui est dingue quand même, c'est que ce que j'aime dans ton message, si tu avais vraiment une connotation ultra, ultra business, tu as l'avantage d'avoir le canal de distribution. Tu pourrais, j'allais dire, prendre le marché et pas ouvrir la porte aux petits producteurs. Et toi, t'as fait en sorte de se dire, voilà, je veux que ces producteurs-là soient mis en avant. Je veux qu'ils utilisent notre réseau de distribution justement pour distribuer leurs produits et avoir un bon produit distribué au maximum. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage-là? Qu'est-ce qui fait que tu pars dans cette direction-là?
C'est une belle question, elle est sensible. Pourquoi j'ai pris cette direction-là? La première, c'est que je pense qu'on rentre dans une ère où la légalisation du cannabis est toute proche, elle est à nos portes. La légalisation du cannabis, elle doit se faire avec nos agriculteurs. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'ils rentrent dans la danse plus que jamais. Et puis, j'ai eu l'âge d'or avec Buralzen. On était seul sur le marché des buralistes en 2017. On était encore seul en 2018. On n'était pas beaucoup en 2019. J'ai vécu des moments qui ont été formidables. J'ai fait des chiffres d'affaires que je ne pensais jamais me permettre de faire.
Tu peux dire des chiffres ou pas?
On a passé une barre de 3 millions sur une structure. Donc, bon, je
peux pas c'est donner
tous les chiffres, mais on a fait des choses qui, pour moi, sont intéressantes, surtout du milieu où j'arrive, qui n'est pas un milieu très aisé. Et pourquoi ce virage aussi fort? Parce qu'aujourd'hui, il faut regarder que sur le salon, on nous parle de molécules telles que le HHC, on nous parle de Delta 8, on parle de choses qui aujourd'hui, on ne connaît pas réellement. Les autorités ne le connaissent pas. Moi, j'ai connu le CBD quand il fallait expliquer aux autorités ce que c'était, quand il y avait une confusion avec le THC. Ça a été très long. Certains acteurs l'ont oublié, ne le connaissent pas, ne connaissent pas cette situation-là, puisqu'aujourd'hui, on a les salons du CBD. À l'époque, le salon du CBD, si on voulait le faire, c'était le Canna Trade en Suisse. Et en France, on n'en faisait pas la promotion. Donc aujourd'hui, une question m'est venue, où est-ce que je prends le virage du HHC et de ses déboires et de ses dérives, et je l'assume, ou est-ce qu'on revient à quelque chose de simple et à la base. Et la base, c'est celle-là, en fait. On prend un produit en plein champ, sous serre, c'est ça le cannabis. Le cannabis, c'est la skunk. Et Booba a dit lors d'une conversation, c'est la skunk avec les graines. On est là, on est des puristes. Mm. Pourquoi aller chercher une technologie? Pourquoi aller chercher à innover? Pourquoi balancer des produits sur le marché pour essayer de contourner quelque chose? Essayons de discuter, restons droits dans nos baskets, montrons que nous savons nous auto-normer, nous nous formons, nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous dire les choses, nous n'avons pas besoin demain de devoir répondre en garde à vue à des questions. On doit le faire en bonne et due forme et sous forme d'échange, comme on l'a eu fait grâce à l'association des buralistes en colère et Patrice Duhaillet qui est le trésorier de l'association. On a pu échanger avec la police nationale, la gendarmerie, certaines personnes des douanes au sujet du cannabis. On a pu avoir des élus, on a pu se confronter à des personnes qui avaient une vision assez préhistorique de la plante, d'autres personnes qui étaient vraiment très calées sur le sujet et ouvertes à la discussion à ce propos. Donc les mœurs sont en train de changer, les mentalités évoluent, mais revenons à l'essentiel.
D'accord, je vois, je comprends ton message, il est vraiment inspirant. Et en plus, moi, tu es en face de moi, donc je vois ton corps bouger et je vois comment tu l'exprimes. T'es convaincu, ça se voit que ça bouillonne à l'intérieur de toi, ce discours. C'est pas une position, c'est vraiment ton être. Je le sens bien. Je veux revenir sur un point. Tu as parlé de HHC. Et c'est vrai que moi, j'entends parler de HHC à fond, à droite, à gauche, mais c'est comme une petite discussion tabou. Tu es le premier à en parler, que j'entends le parler publiquement de ça. Quelle est ta position là sur cette partie? On fait un petit écart rapide. Quelle est ta position sur ce produit-là? Donc, je rappelle que c'est un produit qui n'est pas illégal, qui n'est pas encore enregistré, qui aujourd'hui n'a pas de, j'allais dire, de loi qui l'encadre, et qui est une molécule qu'il y a dans le cannabis, dans le chanvre. Tu peux nous éclairer un peu sur ça?
J'essaie de trouver une comparaison sur le HHC ou d'autres produits qui pourraient être facilement compréhensibles.
Ouais.
Mais comment dire, c'est encore une fois, c'est des excès. Et les excès, c'est comme tout, c'est pas bon. Il faut pouvoir discuter. Peut-être que la molécule est bonne dans le fond, mais il faut pouvoir en discuter. Aujourd'hui, on n'est pas. J'entends des discours, oui, mais à l'époque, pour le CBD, on n'en a pas discuté, on est allé sur le marché, vous êtes allé même sur le marché sans demander. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de base. On ne parlait pas de cannabinoïdes, on ne savait pas différencier. Le commun des mortels ne différenciait pas le chanvre du cannabis. On se faisait contrôler les colis. S'il y avait marqué moins de 0,2 THC, ils ne cherchaient pas à savoir si c'était du lard ou du cochon, si c'était noir, si c'était blanc, ils saisissaient. Et aujourd'hui, on va repartir encore dans ces délires, dans ces dérives. D'accord. Où les mecs qui envoient du CBD, qui envoient du CBG de qualité, de culture française, vont se retrouver avec des colis qui sont bloqués parce que ça va créer de facto des dommages collatéraux de personnes qui font bien leur boulot.
Je comprends.
Le temps que les autorités étudient, comprennent, analysent la molécule, on peut se prendre une suspension tout de suite. On l'a vécu le 31 décembre. On ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans en arrière. Les gens oublient vite. Certes, c'était l'année dernière, mais c'était le dernier jour de l'année.
Je comprends. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, la filière prend de... se construit, se gère, prend de la maturité, veut montrer patte blanche au gouvernement en disant voilà, nous, on fait bien les choses, on veut faire quelque chose de carré. La preuve, on est bien organisé. Vous nous avez mis une petite claque pour nous dire ouais, si on déconne, ben on peut tout arrêter du jour au lendemain. Et là, on a vu qu'au moment où les fleurs étaient interdites, ben tout le monde avait vraiment peur sur la suite des choses.
Arrêt.
Ouais, c'est des boîtes qui ferment, etc. Et je l'ai eu dans plusieurs interviews. Et toi, tu te dis voilà, si on commence à partir dans la dérive HHC, ben on peut avoir le retour du bâton. Ils utilisent peut-être ça pour dire allez, on arrête la filière et on risque à mettre en danger tout le monde. C'est ton message.
C'est une très forte possibilité, c'est mon message, ouais.
Ok, je comprends. Merci pour ce petit écart sur la HHC. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup aussi, c'est le Canastop. Alors, tu vois, moi, personne m'en a parlé de ça et j'aime beaucoup l'approche. J'aime beaucoup l'approche parce que c'est vrai qu'une des approches du CBD, et on le dit, c'est de pouvoir aussi enlever des addictions, ralentir des addictions, que ça soit de l'alcool, que ça soit de la drogue dure, que ça soit aussi le THC. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui étaient à fond THC. Et en fait, le CBD leur a permis de décrocher un peu la partie défonce, on va dire, et partir sur un truc qui les canalise, qui est bien, et où ils sont plus concentrés sur certaines choses. Je vais pas trouver un autre terme que ça. Mais voilà, parle-nous un petit peu de Canastop. Qu'est-ce que c'est le concept?
Le concept, c'est déjà d'aligner un arrêt du tabac, parce que quand on fume un joint, il y a quand même de la nicotine à l'intérieur, on en parle peu, on parle beaucoup de dépendance à la au tétrahydrocannabinol, mais on ne parle pas de la dépendance à la nicotine.
C'est vrai.
Donc, il y a un premier filtre à faire, c'est celui-ci. Donc, il faut changer le rituel, il faut permettre aux consommateurs d'avoir une autre manière d'utiliser de la nicotine ou des cannabinoïdes, ce qu'ils souhaitent aller chercher, en le présentant sous forme de vaporisation, de e-liquide, qui aujourd'hui bénéficie d'analyses d'analyses qui permettent de confirmer que la vape n'est pas nocive pour la santé, elle est toutefois beaucoup moins que le tabac, et qui permet également d'avoir un outil de réduction des risques pour les magasins qui sont spécialisés. C'est important aujourd'hui en France d'avoir des boutiques qui vendent, il n'y a aucun problème, mais il faut pouvoir donner une solution aux consommateurs on voit, par exemple, dans les bars, de plus en plus, les phrases telles que faites-vous aider pour arrêter de l'alcool, faites-vous aider pour arrêter de fumer, pardon. Donc, il faut que nous, on rentre également dans le contexte de proposer au consommateur son produit et une possibilité d'en sortir. Donc, l'idée, elle est très simple. Elle est d'associer du CBD avec de la nicotine, avec un produit qui va ressembler à ce qu'on connaît de la fleur, du goût du cannabis, et de rester sur quelque chose de qualitatif au niveau gustatif et sur un produit qui coûte également bien moins cher aujourd'hui que la cigarette ou que le cannabis.
D'accord. Et donc, c'est quoi le concept pour arrêter là ?
Ah, c'est très simple, c'est une cigarette électro. On a juste besoin du e-feeling. C'est un produit, aujourd'hui, on est sur la mode de la W-Puff. On voit émerger des puffs sur le marché. Donc, le but, c'est d'avoir une simple cigarette électronique que nous avons produite, conceptualisée en France.
Elle est belle. Ça a de la gueule.
Et à l'intérieur, on y met donc ce e-liquide.
D'accord.
Soit en 10 ml avec une préparation déjà faite, soit en 50 ml. Pour pouvoir le doser de la manière que l'on veut.
D'accord. Et donc, avec ça, on ralentit ?
Eh bien, avec ça, vous avez une chance de pouvoir stopper le cannabis, de le ralentir, si le but est celui-ci dans votre démarche.
D'accord. Ok, c'est intéressant. Intéressant, intéressant.
C'est un bon produit. On le développe encore. On a besoin de communiquer dessus. Il y a des personnes qui travaillent encore dans la recherche et développement sur cette gamme-là. Mais ça s'oriente vraiment sur le fumeur de cannabis qui souhaite arrêter, qui souhaite ralentir ou qui souhaite tout simplement avoir une consommation qui est différente et passer sur de la vaporisation. Nous, on propose de passer sous forme de vaporisation, que ce soit sur les fleurs, sur la partie tabac, parce qu'en 2022, c'est l'outil de réduction des risques qu'il faut mettre en avant.
Je vois, et en plus, tu as deux alternatives. Je vois que tu as un light et un strong. Donc, c'est la partie soft, j'allais dire, et la partie plus chargée.
On a le fumeur dit light, occasionnel.
Ouais.
Et puis, on a le gros fumeur qui attaque dès le matin.
D'accord, d'accord.
Celui-ci, on lui…
Donc, tu as adapté, on lui met la dose.
On lui met la frappe.
D'accord, d'ailleurs, tu l'as appelé shoot direct.
Exactement.
Ok, donc on comprend. Tu nous as parlé tout à l'heure un truc super. Ton infusion à la mélatonine et à la fleur de Bac.
Yes.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur ça ? Parce que ça c'est cool aussi.
Alors, c'est un produit qui a été développé avec des matières premières qui sont 100% vauclusiennes. C'est la marque Canassi qui nous a fourni la matière première. Et nous avons accolé avec nos produits, avec la gamme CB, la gamme fleur, pardon, on reprend. On passe d'un sujet à un autre, excusez-nous.
Et on est au Red Bull, là.
Et on est au Red Bull.
Ouais.
On a donc de la mélatonine ou la fleur de Bac. La mélatonine, elle va pouvoir jouer sur le sommeil, pouvoir apaiser dès le soir.
Donc, tu étais en train de me parler de la tisane au CBD. Donc, tisane, mélanotine, CBD, bonne nuit, spectre large. Donc là, effectivement, c'est pour faire une bonne nuit.
C'est pour faire une très bonne nuit.
D'accord.
C'est des vraies tisanes. Elles ont la particularité d'être en sachet individuel de 1,5 g. Aujourd'hui, sur le marché, on retrouve quand même beaucoup de produits en vrac où on est obligé d'avoir une boule à thé sur soi. C'est pas très pratique.
Ouais.
Aujourd'hui, on a ce produit qui a une très belle infographie.
Élaboré en Provence.
Et en plus, la matière première est 100% vauclusienne.
Et bio.
Et elle est bio.
Ça, c'est bon. Ça, c'est...
Et tout est assemblé dans le Vaucluse.
Ah ouais.
Donc, on a vraiment un produit du terroir. On reste propre à nos
Mais tu sais quoi, je vais t'en prendre ce soir et je vais l'essayer.
Voilà, avec plaisir.
Tu m'as vraiment donné envie. Déjà, j'ai entendu Provence, ça y est, j'avais les cigales et tout. J'avais vraiment envie d'essayer. Et je me voyais bien m'endormir au son des cigales, toi. Génial. Tu as un deuxième petit truc qui est sympa. C'est le spray sublingual.
C'est les déclinaisons.
Alors, tu l'as mis en spray, pas en goutte. Tu nous expliques pourquoi ?
Parce que le mode de consommation de la fleur de Bac est plutôt proposé en spray.
D'accord.
Aujourd'hui plutôt qu'en goutte pour la praticité.
Ok, donc juste pour simple, je me mets un petit spray. Hop. Et alors, est-ce que tu as mis un goût, quelque chose qui… ou pas du tout, un petit goût menthe ou mentholé ?
On a travaillé quelque chose de naturel, je vous invite à le découvrir lors des salons ou chez vos buralistes.
Ok, donc tu mélanges de 5 fleurs de Bac originales renforcées en CBD et en CBG.
Exactement.
Ok, ça c'est super. Bah, écoute, on a fait un petit peu le tour de toute ta gamme, de ton parcours. J'ai vraiment adoré la partie où vraiment tu mets en avant les producteurs français et ce combat pour le futur. Je pense que c'est une démarche qui est très smart, puisque je pense que tu pourras ramener au maximum avec toi les politiques, le message que tu as derrière. Et je pense que c'est un beau chemin que vous êtes en train de prendre. J'aimerais que tu me parles de l'UPCBD un peu plus, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'UPCBD? Donc, je rappelle, tu es un membre de l'administration.
Je fais partie du conseil d'administration. Je suis sur la partie réseau buraliste, naturellement.
Ouais.
L'UPCBD s'est monté dans un contexte d'urgence. Faut recontextualiser ça, parce que au moment où nous avons créé l'UPCBD, la question de la molécule de CBD était remise en cause. Il est vrai qu'aujourd'hui, parler un petit peu plus des cannabinoïdes et notamment plus de la fleur que du CBD, mais le combat ne change pas. Le but étant, c'est de légaliser la fleur, de lui mettre un taux, de la normer, de l'encadrer, de participer à l'encadrement de la filière, quelque part aussi de nommer les acteurs qui sont sérieux à travers une charte qui est en train d'être créée. L'UPCBD, à chaque salon, je tiens à remercier et à revenir sur ce 24 janvier où on a pu reprendre le chemin du travail. C'est quand même grâce à eux. C'est grâce aux finances également des adhérents, du conseil d'administration, de ceux qui ont fait des efforts, de ceux qui ont mis leur trésorerie à disposition de l'UPCBD pour le bien commun, pour le bien de tous. C'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui le salon se tient, parce que le recours, c'est l'UPCBD qui a été derrière et qui l'a porté. Avec Yann Bizou, avec Maître Xavier Pizarro, toute l'équipe qui œuvre quotidiennement pour qu'on puisse conserver nos emplois, pour qu'on puisse conserver les CDI qui sont créés, les stagiaires qui prennent passion leur métier, qui apprécient cette nouvelle filière qui est en train de se créer. Il faut nous rejoindre dans ce combat-là, mettre un petit peu les problèmes et les égos de côté, parce qu'encore une fois, c'est le bien commun qui doit prôner envers tout. Voilà.
Tu as raison, il y a union dedans, et on le dit souvent, l'union fait la force. Aujourd'hui, il faut prouver que la filière est à la tête sur les épaules et d'avoir une union forte, puissante, où on va dans la même direction, ça va nous permettre d'être crédibles vis-à-vis des gouvernements, des politiques, pour pouvoir justement donner un peu plus de sécurité, de futur sur du long terme, dire potentiellement dans le futur que la filière peut aussi prendre si la partie récréative ou je sais pas, on a plein de mots différents, se légalise en France, peut-être la soutenir plutôt que de partir sur d'autres grosses sociétés peut-être extérieures. Donc peut-être montrer qu'on est responsable. Est-ce que ce chemin, comment tu le vois toi?
Pour moi, aujourd'hui, encore une fois, c'est un petit peu politique. C'est qu'on a deux mondes, quelque part. On a celui des grands groupes et des institutions telles qu'on les connaît, qui sont sur place, qui sont dans leur bureau et leur joli siège. Puis on a les indépendants, on a ceux qui ont attaqué avec peu, qui ont saisi leur chance, qui ont pris les risques, qui n'ont pas dormi, qui, je pense, certains souffrent aujourd'hui d'insomnie parce que ça a été dur. Pour des entrepreneurs avec des magasins et 300 euros au capital, avec les enfants qu'on mène à l'école à 8h30, puis la perquise à 9h un vendredi matin pour passer un excellent week-end. Je présume aujourd'hui que on se doit de donner à ceux qui se sont battus au départ, encore une fois, ce bébé, quelque part. Moi, j'appelle ça un bébé parce que certains souhaitent se l'approprier, ces grosses institutions souhaitent se l'approprier. On peut faire quelque chose sur la partie médicale, ça c'est normal, il faut qu'on y aille, je le soutiens à 100%. Mais il faut également qu'on regarde le marché tel qu'il est, il faut qu'on regarde la réalité telle qu'elle est. Le trafic de stupes, il est présent, les consommateurs sont présents, mais aujourd'hui on diabolise les cités en disant « Oh, regardez ces jeunes qui se battent, qui agressent ». Aujourd'hui le consommateur il a plus peur du gendarme que du mec en survêt Lacoste. C'est fini cette époque-là où c'était des rues coupe-gorge. Aujourd'hui, on a peur du contrôle au rond-point parce qu'on a fumé un joint la veille. On en est là en 2022. Une privation de liberté. et tout ce qui s'ensuit derrière. C'était très fort, je me suis un petit peu perdu dans le message.
Ouais, non, mais c'est bien, je vois où tu veux venir. La question que je voulais te dire, c'est maturité, union. Est-ce que tu penses que le marché aujourd'hui peut pouvoir récupérer justement cette partie récréative ?
Elle se doit de la récupérer. Justement. Elle doit continuer à militer, elle doit continuer quelque part à muter. On est aujourd'hui sur du CBD, sur des cannabinoïdes. 6 mois plus tard, on parle plus de son entièreté plutôt que d'une seule molécule. Mais j'espère que sur le second semestre, on ait des surprises. Et je fais un appel à Monsieur Charles Morel qui nous suive dans cette légalisation. Et je pense qu'il est pour. C'est un débat qu'on va soulever, je l'espère, lors du séminaire qui se tiendra le 23 mai à Paris après le salon. C'est le lundi 23 mai, je ne dis pas de bêtises sur la date. Donc, discutons de ça pendant le séminaire avec le conseil d'administration, avec les adhérents, mais il faut continuer à évoluer et à muter.
D'accord. Donc, évoluer et à muter. Et donc, tu penses que le gouvernement va donner la possibilité aujourd'hui aux magasins ou aux distributeurs de CBD de pouvoir prendre cette filière-là ou pas ? Ou tu penses que ça va passer sous le nez de…
C'est une question où j'ai une réponse qui est assez utopique. Ce serait de dire oui. Aujourd'hui, bon nombre de dérives sont présentes. Le réseau des buralistes a un avantage conséquent sur un réseau plus classique. C'est qu'ils ont déjà une licence et répondent à des critères juridiques tels que d'avoir un casier judiciaire vierge, d'avoir des cautions en banque par rapport à l'achat du tabac et toute la logistique que ça demande derrière. Donc, on a quelque chose de structuré, mais au niveau de la sécurité, ils ont avec les douanes, des contrats sur les alarmes, sur leur sécurité. Donc, aujourd'hui, il y a des pourparlers, mais encore une fois, nous serons jugés par rapport à la qualité de notre travail, de la manière dont on l'apporte. Est-ce que certains ont confondu l'OG Kush du CBD avec l'OG Kush du cannabis tel qu'on le connaît pour les puristes, pour Diacquérir pareil. On a eu la discussion hier avec Franck de la Maison du Champ où il faut respecter le nom et le prénom de certaines personnes qui se sont battues pour des valeurs à des moments, encore une fois, où ça a été très dur. C'est aussi grâce à eux qu'on est là. Ils ont réussi à faire évoluer les mentalités. Et de rester sur du CBD pour montrer, quelque part, patte blanche, pour montrer que nous savons rester sur le secteur d'activité et anticiper une norme et un encadrement sur un marché plus complexe demain, avec le bon vouloir des autorités, la complicité de l'UPCBD et de tous les acteurs du marché pour déterminer ce qui sera le mieux et le plus équitable.
Ok. Pour moi, ton message, il est plein d'espoir. On y croit. Et d'autres pays l'ont montré que c'était possible. Donc, espérons que ça aille dans cette direction pour continuer à développer cette belle filière.
Affirmatif.
C'est cool.
C'est cool.
Merci pour ce bon moment qu'on a partagé ensemble.
Merci à toi, Mathias.
Très content d'avoir discuté avec toi.
C'est partagé.
Et tu es une personne inspirante.
Merci.
Je le sens.
Merci.
Merci, Mathias.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.